C'est quoi un diacre ? Nous tentons cette semaine d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. En lien, bien sûr, avec le 60e anniversaire de la restauration du diaconat permanent par le Concile Vatican II, c'était en 1964. Pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, nous sommes déjà remontés à la source, aux Actes des apôtres et à l'institution des sept que l'on peut considérer comme les ancêtres du diaconat, les sept institués pour le service des tables. Nous avons vu ce que pouvait contenir cette expression, mais également aussi nous avons vu déjà les tout premiers diacres, notamment Étienne et Philippe, à l'œuvre, l'un dans la prédication, où il annonce l'évangile du Christ dans une synagogue de Jérusalem, et puis Philippe, qui évangélise lui aussi et va jusqu'à baptiser le fameux eunuque éthiopien, juif, qui revenait de Jérusalem après son pèlerinage et qui se posait une multitude de questions. Plongeons-nous maintenant, si vous le voulez bien, dans l'église des tout premiers temps, l'église des premiers siècles, que l'on appelle aussi l'église des pères apostoliques, c'est-à-dire des apôtres ou de ceux qui ont directement connu les apôtres. Les apôtres n'étaient que 12, nous l'avons rappelé, ils ne peuvent donc enfanter et surtout gouverner qu'un nombre restreint de communautés. Ils ont la nécessité de mettre en place une structure locale qui assure la bonne marche de la communauté et son déploiement. Dans cette première période de l'Église, on assiste à certains atermoiements. Le spécialiste A.G. Aman parle, pour les 1er et 2e siècles, d'une ère des tâtonnements. Néanmoins, deux figures ressortent dans la plupart des premiers textes que nous possédons, l'épiscopos, c'est-à-dire l'évêque, et le diakonos, le diacre. Ce tandem reprend sans doute celui du prêtre et du lévite dans l'Ancienne Alliance. C'est un parallèle intéressant qui mériterait d'être approfondi. Alors allons chercher quelques textes très anciens. Par exemple, Saint Clément de Rome, qui est mort en 101. Dans sa première épître aux Corinthiens, qu'il écrit donc au 1er siècle, mentionne que les épiscopes, les évêques et les diacres ont une fonction spirituelle dans la communauté. Il explique « Les apôtres ont reçu pour nous la bonne nouvelle qu'ils sont partis annoncer. Ils prêchaient dans les campagnes et dans les villes et ils en établissaient les prémices. Ils les éprouvaient par l'esprit afin d'en faire les évêques et les diacres des futurs croyants. » Un texte de la Didaché, un ouvrage qui date de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, mentionne lui aussi, comme figure de l'Église, les évêques et les diacres. Voici ce qu'on trouve dans ce texte. « Choisissez-vous des évêques et des diacres dignes du Seigneur, hommes doux et désintéressés, véridiques et sûrs, car ils remplissent eux aussi auprès de vous l'office des prophètes et des docteurs. » Il est donc sûr qu'à cette époque, les diacres étaient responsables de la vie de l'Église, concernant notamment les œuvres de charité en faveur des veuves et des orphelins. Mais leurs activités se prolongeaient sans doute dans la catéchèse et dans la liturgie. Curieusement, dans ces textes des premiers temps de l'Église, il n'est pas fait mention du ministère du prêtre. On parle de ci, de là, du presbyte. Alors, ce terme désigne-t-il le prêtre ? À proprement parler, ce terme signifie ancien. Sans doute désigne-t-il une certaine maturité, une sagesse, plus qu'une accumulation des années. C'est ce que semble réclamer Paul en ce qui concerne les responsables de communauté dans sa première épître à Timothée. Mais il est difficile d'assimiler le responsable de communauté avec le prêtre. Les choses ont dû se mettre en place lentement et sans doute de manière différente suivant les lieux. Les premiers textes que nous possédons subordonnent la fonction du diacre à celle de l'évêque sur qui repose la responsabilité. Tous deux se présentent comme, je cite, « des dirigeants et des membres utiles de la communauté ». Les presbytes viendront les compléter, mais sans rompre cette association. Peu à peu va apparaître, comme c'est le cas chez Ignace d'Antioche, une hiérarchie de l'Église à trois degrés. Les diacres, les prêtres et les évêques.
Au ras des pâquerettes, Étienne Dallaire.
Chez saint Ignace, évêque d'Antioche, martyrisé vers 110 à Rome, la responsabilité de la communauté chrétienne repose avant tout sur l'évêque et ensuite sur les diacres. Ces derniers rendent à leur évêque de multiples services. Ils sont son secrétaire, son messager, mais aussi son soutien et sa consolation. Il participe à ce qu'on appelle la diaconie du Christ, c'est-à-dire à tout ce qui découle du Christ serviteur par le ministère de la parole, et aussi exerce une activité caritative par le service des tables. Donc déjà se dessine la double mission diaconale chez Ignace d'Antioche, celle de la parole et celle de la charité. Et bien entendu, les deux se rejoignent dans la célébration eucharistique. Aman dit « Toutes ces indications prouvent une certaine mobilité et polyvalence de la fonction diaconale qui va se préciser et se fixer un siècle plus tard dans des rédactions législatives » que nous évoquerons d'ailleurs. Dans le texte appelé « Le pasteur d'Hermas », un texte qui date du début du IIe siècle, l'évêque a la haute main sur la communauté et sur les tâches sociales, l'hospitalité, la charge des veuves et des orphelins. Mais il délègue cette assistance sociale au diacre. Il semble néanmoins que quelques difficultés se fassent jour ici ou là. Pourquoi ? Eh bien parce que certains profitent de leur situation de gérant des biens de la communauté pour s'enrichir personnellement. C'est ainsi qu'on apprend que la communauté chrétienne possède une caisse d'entraide qui doit permettre de soulager les plus pauvres et qu'elle est gérée par le diacre. Apparemment, ce n'est pas ici un détail, car beaucoup de difficultés et de luttes à venir entre diacres et prêtres viendront de là. Dans ses écrits des tout premiers temps, il n'est guère fait allusion aux fonctions liturgiques des ministères chrétiens et à l'animation des réunions. Tout occupés à la mission, les premiers missionnaires ne sont pas encore saisis par des questions sur la présidence des assemblées ou sur les compétences liturgiques des uns ou des autres. Et les rares témoignages dont on dispose n'autorisent aucune conclusion précise à ce sujet, nous dit Marcel Metzger dans son ouvrage « Ministère et liturgie dans l'Église ancienne ». Pour bien comprendre l'importance considérable du diacre dans l'Église des premiers siècles, il faut rappeler le contexte de cette époque et l'extraordinaire engagement de l'Église au service des besoins sociaux. Ce sera l'objet de notre prochain rendez-vous.
Chrétienne de votre région. Présence, une idée qui fait son chemin.
Contrairement à ce qui est dit dans l'émission que vous allez entendre, la conférence qui a été donnée par le père Clément Humbert l'a été à Laval et non pas à Château-Gontier. Merci de nous pardonner cette erreur.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Connaissance et Témoignages. Nous allons aujourd'hui évoquer une grande personnalité de l'Église contemporaine, le pape émérite Benoît XVI. Nous le ferons à travers une biographie écrite par un journaliste bavarois, Peter Zewald, et c'est le traducteur en français de cette biographie que nous avons la chance de recevoir dans nos studios. Bonjour Père Clément Humbert.
Bonjour.
Vous venez à Château-Gontier dans le sud de la Mayenne pour y donner une conférence intitulée « À la découverte de Benoît XVI ». Merci de nous donner un peu de votre temps. Père Clément Humbert, si vous le voulez bien, nous parlerons un peu de vous, car nos auditeurs aimeront savoir qui vous êtes. Puis, vous nous présenterez Peter Zewald, l'auteur de la biographie que vous avez traduite en français. Enfin, nous consacrerons la plus grande partie de notre entretien à Benoît XVI. Père Clément Humbert, vous êtes un jeune prêtre, vous exercez votre ministère à Vienne, en Autriche. En quoi consiste-t-il et comment êtes-vous arrivé à Vienne ?
Alors, mon ministère à Vienne est assez simple. Je m'occupe de la communauté catholique francophone depuis maintenant 11 ans. Je suis prêtre depuis maintenant 11 ans, donc mon ministère, pour ainsi dire, a toujours été en Autriche, a toujours été à Vienne. J'y suis arrivé au service de l'association Point Cœur et j'ai la chance de pouvoir être maintenant compté parmi les prêtres du diocèse. Je suis résident incardiné sur place.
Cette traduction de la biographie de Benoît XVI, c'est une commande de l'éditeur ou bien c'est la conséquence de votre admiration pour le pape émérite ou c'est autre chose?
Alors c'est plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que j'ai pris connaissance de l'absence de traduction en français de cette biographie qui me semblait pourtant quelque chose de tout à fait nécessaire pour le public francophone. Et j'ai donc pris moi-même l'initiative de contacter les éditeurs allemands qui m'ont répondu très promptement en s'empressant de me faire la proposition. Je m'étais présenté non pas comme personne ayant déjà fait des traductions, connaissant éventuellement une maison d'édition susceptible de me soutenir sur ce projet. Et donc, ma première prise de contact a servi pour faire le lien entre les éditeurs français et allemands.
Qui est Peter Sewald, l'auteur allemand de la biographie que vous avez traduite en français?
C'est un journaliste, pas spécifiquement religieux, ni vaticaniste, ni spécialiste de quoi que ce soit, si ce n'est de Benoît XVI, de Joseph Ratzinger, puisque ce livre est le point d'orgue, la conclusion de plusieurs années de collaboration entre ces deux hommes. Elle a commencé en 1996, me semble-t-il, avec un livre entretien, la publication d'un livre entretien d'ailleurs assez connu et très très bien vendu qui s'appelle Le sel de la terre. Ça a été une découverte mutuelle pour l'un comme pour l'autre. Disons qu'au départ c'était un peu un hasard si Peter Sewald s'est retrouvé à faire ce livre entretien, mais une vraie estime mutuelle est née de cette première rencontre. Et donc ils ont fait ensemble plusieurs autres livres qui sont des livres d'entretien. Celui-ci bien sûr a des entretiens mais est un peu plus dense, plus complexe, plus fouillé que les autres, dans la mesure où justement il fait un peu la conclusion de ces années de collaboration. C'est un peu la biographie, à mon avis, il y en aura certainement d'autres, mais la meilleure parce qu'elle est faite par quelqu'un qui le connaît très bien et qui a eu accès non seulement à des archives, mais aussi à beaucoup de témoignages, qui a tout simplement rencontré énormément de personnes ayant été en contact à un moment ou à un autre de son existence avec le pape Benoît. Et donc, considérer que c'était son devoir que de parachever ces années de coopération avec une grande biographie sur ce personnage qui vit toujours, mais comme il s'est arrêté, disons, d'enseigner, d'écrire, de prendre la parole publiquement, il semblerait que l'essentiel a été dit.
Donc, admiration pour Benoît XVI. Je suppose que c'est aussi la qualité de la biographie qui vous a incité à la traduire. Vous n'auriez pas traduit n'importe quelle biographie de Benoît XVI.
Non. C'est sûr que le nom de Peter Sewald m'était connu et que j'ai été moi-même très enthousiasmé de découvrir Benoît XVI à travers justement ses livres d'entretien, de sentir une liberté de ton qui plaisait beaucoup à Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, et c'est la raison pour laquelle la coopération a continué. Et donc je me suis dit, cet homme-là, je sais que il a fait un travail avec la méthode qui convient, avec le respect, l'attention, la recherche de vérité qui est nécessaire pour un tel travail. Donc c'est sûr que je n'aurais pas traduit n'importe quelle biographie. Ceci étant dit, si j'avais vu que la grosse biographie de la fin de vie de Benoît XVI était en suspens et n'avait aucun traducteur, peut-être que j'aurais vérifié le contenu, ce que je n'ai pas fait cette fois-là. Je me suis mis à traduire en le lisant, pour ainsi dire. Mais cette estime que j'ai pour le pape, cette affection que j'ai pour lui, et donc la possibilité de le faire un peu mieux connaître, d'écarter quelques idées reçues sur sa personne auprès du public français, francophone, me tenait à cœur.
Comment s'organise cette biographie ? Chronologiquement ou par thème, elle ou d'une autre façon?
Elle est chronologique. Elle est chronologique. Le premier tome part de sa naissance jusqu'à la fin du Concile Vatican II, donc 1927-1965. La deuxième, de 1965 à un an et demi ou deux ans avant aujourd'hui. Elle est, ceci dit, quand même un peu thématique dans la mesure où la chronologie n'est pas simplement la chronologie de l'homme, mais elle est aussi une chronologie historique. C'est vraiment une mise en perspective de la vie de cet homme dans les grands événements du siècle, de son pays, de sa région, de l'Église, avec beaucoup d'articles de presse, de citations, etc. Donc c'est une mise en perspective très intéressante. Lorsqu'on s'approche de l'époque contemporaine, alors on se rapproche aussi un peu plus de thématiques, c'est-à-dire que l'auteur se focalise sur des points qui intéressera certainement le public, qui ont besoin d'être éclaircis. Par exemple, il y a un chapitre sur une encyclique, sur sa première encyclique, ou il y a un chapitre sur la question de l'affaire Williamson avec la levée des excommunications, etc. Donc il y a un côté un peu plus journalistique où là il s'agit de montrer, puisque on a le temps, vous voyez que le livre est volumineux, de montrer vraiment ce qu'il en était, parce que très souvent la pensée n'a pas le temps d'être exposée, parce que personne n'a le temps ni d'écouter ni de lire. Là, il a dit « Pardonnez-moi si je suis long, mais pour une fois que j'ai la possibilité de tout dire, je préfère le faire. »
Et combien de temps avez-vous mis, quand on voit ces deux livres impressionnants, vous avez mis combien de temps pour les traduire ?
C'est un travail de 18 mois. C'était le délai que nous imposait en réalité le contrat. C'est bien d'avoir un délai. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir eu dès le départ un délai, parce que sinon, je ne suis pas traducteur de métier, je ne fais donc pas ça à plein temps. Et donc, il faut y allouer un temps précis, à ne pas dépasser non plus, parce que sinon, c'est d'autres choses qui en pâtissent. Et donc, c'était très bien de pouvoir procéder de cette façon-là, sachant qu'il n'y a pas que mon travail là-dedans. Il y a plusieurs mois de relecture, de mise en page, etc. Donc, pour terminer à terme, je devais moi-même avoir terminé avant les 18 mois en question.
Lorsque le cardinal Ratzinger est élu pape en 2005, il prend le nom de Benoît XVI, il a 78 ans. Il songe, paraît-il, à prendre sa retraite dans sa chère Bavière et pas du tout à devenir le 265e pape de l'Église catholique.
C'est tout à fait juste. En réalité, lorsqu'il est arrivé à Rome, à la demande de Jean-Paul II, il avait, d'abord, il n'y est pas venu très très volontiers, même si l'obéissance et puis l'affection, le respect pour le pape et spécialement pour Jean-Paul II ne l'ont pas fait hésiter trop longtemps. Ceci étant dit, il espérait pouvoir être relevé de ses fonctions. Donc il a essayé au bout de 4 ans de dire « Voilà, vous aviez besoin de moi pour cette période, je l'ai faite, est-ce que je peux partir ?» Non. Il a réessayé une deuxième fois au bout de 8 ans, deuxième refus, et il lui a été fait comprendre à ce moment-là que en réalité il ne partirait plus, que c'était vraiment jusqu'au décès du pape. Et donc effectivement, il espérait fortement, ou il se réjouissait déjà à l'idée de pouvoir retourner chez lui tranquillement dans une bibliothèque, finir de rédiger les livres qu'il avait sur le cœur, parce que vous savez que le Jésus de Nazareth, il le préparait déjà, il savait exactement ce qu'il avait encore à faire, parce que la plupart des livres qu'il a écrits, c'est vraiment un appel intérieur, il a une mission de rédiger, et donc effectivement ça n'était pas du tout le programme qu'il
s'était... Dans son plan de carrière.
Exactement.
Et se retrouver près de son piano aussi.
Exactement.
Avant d'explorer, dans la seconde partie de notre émission, la personnalité et l'œuvre de Benoît XVI, venons-en aussitôt à sa renonciation. En 2013, après 8 ans de pontificat, il renonce à sa charge et sa décision est un coup de tonnerre dans l'Église. Quelles en sont les raisons ?
Alors, il fait un communiqué assez bref, mais où nous sentons bien que chaque mot est choisi. Le communiqué qu'il fait d'abord aux cardinaux est fait en latin, de telle sorte que les cardinaux les moins instruits
n'ont pas compris,
ou ayant un peu oublié leur latin, n'ont pas immédiatement compris. Il explique qu'il avait fait aussi justement pour donner un caractère très objectif de son propos et pas être interrompu par les émotions, des choses comme cela. Mais la raison, et donc c'est vraiment mon état de santé, ne me permet plus d'exercer pleinement le ministère que Dieu m'a confié. Lorsque l'auteur revient sur cette question, alors il y revient ici, mais il y revient aussi dans un livre d'entretien qui était paru en 2016, je crois, dernière conversation avec Benoît XVI. Benoît XVI donne quelques éléments supplémentaires, voilà, le fruit de sa prière, la certitude que c'était effectivement la volonté de Dieu, mais quelques éléments aussi qu'il avait un petit peu préparé à cela. La première chose, c'est la demande que lui avait fait Jean-Paul II de lui faire une note théologique sur la possibilité de la renonciation du pape. La demande était donc pour Jean-Paul II lui-même, qui s'est posé la question lorsque son état de santé déclinait et qui finalement a discerné que Dieu lui demandait en réalité de rester. Et puis une autre raison qui est une raison plus historique et théologique, qui certainement le touche de près, c'est le fait que le Concile Vatican II a introduit une nouveauté que l'Église auparavant ne connaissait pas, qui nous paraît à nous, en tout cas gens de ma génération, à moi tout à fait évident, c'est le statut d'évêque émérite. En réalité, ça n'existe pas auparavant. Et donc établir, donner les fondements théologiques de la renonciation d'un évêque en étant donc un évêque qui garde sa tâche spirituelle de prière pour son diocèse, mais n'exerce plus la fonction de gouvernement, n'est pas très éloigné finalement de la considération sur le pape.
Père Clément Humbert, nous allons, comme c'est l'usage, nous offrir une courte pause musicale. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite de cette émission consacrée au pape émérite Benoît XVI. Prenons le cours de notre émission Connaissance et témoignages. Venu donner une conférence à Château-Gontier dans le sud de la Mayenne, le père Clément Humbert est dans nos studios pour nous parler du pape émérite Benoît XVI, dont il a traduit en français la biographie de Peter Seewald. Père Clément Humbert, le pape émérite Benoît XVI est allemand, plus précisément bavarois. Cette origine est-elle importante pour lui ?
Elle est tout à fait essentielle. Les premières années nous montrent à quel point il était marqué par sa terre, combien il y est attaché. La suite de son parcours nous montre aussi son désir d'y rester, d'y revenir. Il a une famille à laquelle il est très attaché. Ils passeront bien sûr leur enfance ensemble avec son frère Georg et sa sœur Maria. Mais les années passant, on verra que beaucoup de décisions, beaucoup d'entreprises sont faites aussi dans la perspective de pouvoir être en lien avec sa famille. Son frère Georg, qui est aussi prêtre, devient maître de chapelle de la manécanterie de Ratisbonne, donc en Bavière. Sa sœur Maria, qui finalement ne se marie pas, l'accompagne à bien des étapes de son existence. Et lui-même dit, la Bavière, la foi, la tradition, l'enracinement que j'ai expérimenté étant enfant m'a porté toute mon existence. Et puis, bien entendu, c'est en tant que jeune catholique bavarois, fils d'un gendarme extrêmement pieux, très attaché au sanctuaire de Altötting, ayant fait une consécration à la Vierge là-bas, qu'il doit affronter toute la période assez effroyable qui a été la montée du nazisme, la guerre, etc. Mais effectivement, ça n'est pas du tout un hasard, car tout aussi bien le bon reçu de la Bavière que les souffrances liées au fait d'y être né, d'y avoir grandi, ont une grande influence sur le parcours et sur la théologie de Joseph Ratzinger.
Joseph Ratzinger s'est investi dans les travaux du Concile Vatican II, dans lequel il a joué un rôle important.
En effet, il est invité comme expert théologique, peritus, de l'archevêque de Cologne, le cardinal Frings, qui est donc son supérieur direct à ce moment-là, puisqu'il enseigne à l'université de Bonn. Il est professeur de théologie à l'université de Bonn. Et le cardinal Frings est une personnalité reconnue, influente, un homme pour lequel beaucoup de gens ont une véritable estime. Et donc, si il n'est pas Joseph Ratzinger directement cité, puisqu'il rédige finalement les discours, les prises de parole de son archevêque, le livre montre de façon très intéressante justement les rouages de ces grandes assemblées et combien la griffe Ratzinger a été importante en réalité dans les textes finaux du Concile Vatican II.
Benoît XVI bénéficie d'une intelligence impressionnante qui va se manifester de différentes façons. Peut-on dire que cette intelligence, elle a avant tout été mise au service de la vérité?
Oui, je crois qu'on peut le dire, puisque c'est sa devise épiscopale, coopérateur de la vérité, coopérateur au pluriel, qu'il faut bien le dire, parce que lui-même y attache une importance, c'est-à-dire que c'est une façon de ne pas se mettre en avant comme si il recevait, il était mieux placé que les autres dans la vérité, mais justement la vérité contemplée, la vérité recherchée invite finalement toute la coopération, la mise à disposition de nos talents. Comme vous l'avez dit, c'est une intelligence tout à fait exceptionnelle, des capacités intellectuelles, des capacités de mémorisation, de synthèse qui sont vraiment au-dessus de la moyenne, mais qui d'une certaine façon ont été réquisitionnés par l'Esprit Saint pour permettre à cet homme de développer une œuvre théologique et puis de devenir le gardien de la vérité théologique lorsqu'il devient préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, et enfin le pape qui s'est même attelé à nous offrir une encyclique dite sociale dont le titre est justement la charité dans la vérité.
Cette volonté de servir la vérité, on la retrouve dans son enseignement, dans ses livres, dans ses homélies, dans ses encycliques, et dans ses livres sur Jésus de Nazareth.
Oui, une petite anecdote, si les auditeurs ont chez eux le livre Jésus de Nazareth, il y a une très très jolie préface, écrite donc par Joseph Ratzinger. Bien qu'il soit pape, il signe Joseph Ratzinger pour dire qu'il ne prétend pas imposer ce regard théologique comme étant le dogme, mais il se veut aussi justement celui qui cherche la vérité au moyen de tout ce que les sciences modernes proposent, de tous les progrès archéologiques, exégétiques, etc., et en même temps enraciné dans cette transmission, cette tradition de la vérité depuis les pères de l'Église et le magistère. Et donc effectivement, son ambition lorsqu'il rédige Jésus Nazareth, c'est de permettre un accès à la figure de Jésus-Christ, purifié un peu de toutes les scories, justement de toutes ces étapes où il y a eu des errements un peu dans la théologie, dans l'exégèse, pour ramener vraiment dans celui qui dit « je suis la vérité », donc se mettre véritablement à son école.
On associe Benoît XVI également à l'importance de la liturgie. Il vit les erreurs, appelons-les comme ça, de l'après-concile Vatican II, et il est celui qui cherche à remettre les choses en place et à pacifier un environnement qui, dans certains pays, en particulier en France, est un petit peu perturbé. Est-ce que c'est important pour lui, la liturgie ?
C'est tout à fait important pour lui, tout simplement parce qu'il est un homme qui, déjà petit enfant et ensuite devenu prêtre, évêque, pape, vit la liturgie comme l'élément central de sa foi, de la pratique de la foi. Il raconte ses souvenirs d'enfance comme enfant de cœur, comme participant à la messe dans les églises, dans les différentes églises où il a pu vivre. Il devient jeune prêtre, professeur de théologie à l'université, etc. Et quels que soient les lieux où il se trouve, les étapes de son existence, la messe est vraiment au cœur de sa foi et de sa spiritualité. De sorte que lorsqu'effectivement le concile propose tout un tas de réformes, d'innovations et notamment parfois de ruptures avec la liturgie qui est quelque chose qui est ancré dans une continuité, dans une tradition, il ne comprend pas en réalité. Il y a quelque chose qui lui échappe dans cette tentation de vouloir refaire les choses, alors que justement lui-même est vraiment nourri par la liturgie, c'est-à-dire qu'il reçoit le Christ, il donne le Christ à chaque fois qu'il célèbre la messe. Donc effectivement, il y a d'abord cette incompréhension devant la nécessité qu'ont trouvé certaines personnes de tout changer. Et ensuite, la conscience que d'autres personnes que lui, peut-être plus blessées, parce qu'il y a des environnements certainement plus conflictuels, l'Allemagne est d'une certaine façon moins conflictuelle que peut l'être la France, où nous avons quand même des tendances à être très sanguins dans nos débats et nos discussions. Il ressent le besoin, effectivement, petit à petit, de proposer un chemin de réconciliation, notamment aussi parce que d'abord, il en vit, et puis en plus, il a la capacité intellectuelle, la délicatesse aussi humaine pour démêler ce qui est humain de ce qui est divin, redépoussiérer, pour ainsi dire, ce qui faisait le fil directeur de la messe depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, il y a un texte que magnifique que nous lui devons, qu'il a rédigé à l'occasion du cinquantenaire d'un livre qui portait le même titre, L'Esprit de la Liturgie. L'un de ses grands maîtres à penser, Romano Guardini, avait écrit en 1950 un livre portant ce titre, et lui a considéré, a jugé bon finalement de contempler la même chose, de reprendre un peu la même méthode pour reproposer les fondements de la liturgie aux chrétiens, alors qu'il était cardinal à Rome.
On a l'impression qu'une vertu anime tout particulièrement Benoît XVI, c'est la vertu théologale de l'espérance.
Oui, elle revient très souvent, cette petite espérance, comme dirait Charles Péguy. La question du salut, la question des fins dernières est très présente dans son travail de théologien, dans les cours qu'il donne, dans les livres qu'il écrit, certainement lié bien entendu aux épisodes de son enfance, hein, où on est face au grand cataclysme d'abord de l'idéologie destructrice de l'âme, ensuite de la guerre destructrice d'une civilisation. Cette encyclique qu'il publie sur l'espérance, après celle sur l'amour, est d'une certaine façon une très très belle synthèse, qui est en même temps une simplification du sage qui a contemplé ce mystère toute sa vie et qui du coup en offre la fine fleur avec un langage qui est devenu tout à fait pur et cristallin, où effectivement il nous invite à vivre, à entrer dans l'espérance, à reconnaître que nous sommes sauvés dans l'espérance, comme le dit le titre.
Père Clément Imbert, notre émission Connaissance et Témoignages se termine. À l'occasion d'une conférence donnée à Château-Gontier, vous avez accepté de venir nous parler du pape émérite Benoît XVI. Ceux de nos auditeurs qui le souhaitent pourront poursuivre cette découverte en lisant Benoît XVI, une vie de Peter Zeewald, paru aux éditions Cora, dont vous avez assuré la traduction en français. Merci Père Clément Imbert de nous avoir donné un peu de votre temps et au revoir.
Au revoir.
Merci à nos auditeurs pour leur fidélité à notre antenne et à bientôt.
Présence. Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Vivante Église, Parole d'auteur, la conférence de la semaine, des clés pour vivre,
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence,
4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse.
Ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive.
Ouvre les yeux et vois. Ouvre les mains, reçois. C'est lui le vrai chemin. Ouvre la Bible et crois. Ton âme et sois rempli de l'Esprit Saint. Ne te cache pas et vois. Ne garde pas, reçois. C'est lui le vrai chemin. Ne doute pas et crois. Relève-toi et sois
frissons.
Seigneur, c'est toi qui nous donne la vie. Seigneur, c'est toi la grâce qui nous conduit. Seigneur, c'est toi qui nous envoie l'esprit. Seigneur, c'est toi et toi seul qui unis. Seigneur, c'est toi.
Ton âme et voix,
prie pour le monde, reçois.
C'est lui le vrai chemin, entends sa voix et crois. Suis Jésus-Christ et sois rempli de l'Esprit Saint.
Seigneur, c'est toi qui nous donne la vie.
Dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
Nous étions dans le paragraphe sur l'Église comme sacrement universel du salut. On a approfondi la dernière fois le mot sacrement, le mot mystère, qui se rattachent à la fois au Christ mais aussi à l'Église, qui nous contient et communique la grâce invisible du Christ. Et là, au numéro 775, il est une autre notion qui est abordée, c'est la notion d'instrument. Alors je lis la citation de Lumen Gentium. L'Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on décortique ce texte? D'abord que l'Église est le signe de l'union intime avec Dieu.
Donc, quitter toujours de ce mot « signe » rappelle ce que nous avons dit des sacrements. Qu'est-ce qu'un sacrement? Qui est un signe visible d'une réalité invisible. Et donc, ça colle bien avec cette double dimension que nous avons toujours observée de l'Église, à la fois humaine et divine. Et donc, le mot « signe » convient bien, mais il faut y ajouter une efficacité. Et l'instrument, dans le fond, nous montre cette efficacité de cette réalité qui agit comme un signe. Certains signes ne font que constater les choses. Je dirais par exemple la fumée est le signe du feu. Bon, très bien, c'est un peu, je vois bien très bien une fumée extérieure, je ne vois pas la braise, mais je vois bien que par derrière c'est le signe du feu. Mais pour comprendre, outre le signe, c'est l'aspect instrumental, c'est-à-dire en vue de quelque chose. Par exemple, un feu, quand autrefois on faisait des cultures sur brûlis, eh bien, le but c'était de brûler toute une surface pour redonner du carbone à l'ensemble de la terre pour la réalimenter, pour que on puisse l'année suivante, après cette culture sur cet établissement d'un feu, eh bien, redonner une culture qui redémarrerait avec de bons éléments carboniques. Mmh. Et du coup, il y a une finalité, il y a une instrumentalité, et c'est pour cela que parfois on a utilisé dans l'Église l'expression « signe efficace ». Alors ça peut un peu troubler certaines oreilles, c'est une hypallage, c'est-à-dire c'est une expression réduite pour que c'est un signe qui effectue ce qu'il annonce. Et donc, il y a vraiment une efficacité à terme. C'est donc ce que dit ce signe, eh bien, est efficace. Mmh. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, l'Église a une vérité de grâce en elle-même qui la rend efficace pour réaliser cette union intime avec Dieu et finalement avec une perspective qui doit s'ouvrir à tout le genre humain. Personne n'est exclu. Je ne veux pas dire, ben voilà, on va se contenter d'un petit précaré dans le monde, les Européens par exemple, parce que le Christ a vécu dans le fond proche de l'Europe en envoyant les premiers missionnaires en Europe et se limiter à quelque chose. Non, toutes les cultures, tous les hommes méritent une inculturation de l'Évangile et est allé donc vers l'ensemble du genre humain, toujours à partir de la même vérité que le Christ s'est vraiment incarné à Jérusalem, et Jésus le dit, en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, cette unité du genre humain est évidemment une unité, je dirais, potentielle, elle n'est pas encore totalement réalisée, elle se fait dans le mystère de Dieu, dans le mystère de la Providence, mais tout concourt à ce que ces œuvres de Dieu finissent par réaliser ce pourquoi Dieu les a instituées. Et nous devons avoir cette confiance donc d'un mouvement permanent de la puissance de Dieu dans la vie terrestre et voir cette descente du Saint-Esprit en permanence. Le prophète Isaïe est très net là-dessus en disant « De même que la pluie et la neige descendent des cieux, je suis au chapitre 55 d'Isaïe, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. » C'est Dieu qui parle, et cette parole qui sort de sa bouche, c'est le Verbe. C'est le Christ qui la réalise. Elle ne revient pas vers moi sans effet. Et on trouve donc le mot efficace dans le mot effet. Et sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Donc il y a une efficacité qui est annoncée du plus haut des cieux. Et c'est cette efficacité-là qui est ainsi reprise par le Concile Vatican II dans la belle citation que tu nous as donnée.
Et quand on dit que l'Église est instrument, on peut avoir pour nos auditeurs une image un peu réductrice. Donc elle serait un peu comme le râteau du Christ ou l'appel du Christ, un instrument qu'il utilise à son gré.
Alors, il faut bien comprendre que le mot instrument a plusieurs variations, comme les instruments de musique. On peut regarder des instruments un peu élémentaires, quand on prend le triangle, mais on peut regarder aussi des instruments plus élevés, comme le violon ou le piano. Et donc, être instrument n'est pas nécessairement quelque chose de bas, ça peut être quelque chose d'élevé, et en particulier, le Christ lui-même utilise son humanité comme un instrument conjoint, disent les pères de l'Église. Oui. Et de ce point de vue-là, un instrument conjoint, moi-même, je suis toujours très heureux de les avoir à ma disposition. Mes mains, mon corps est un instrument de mon âme. Et c'est conjoint, c'est-à-dire que c'est moi-même. Je ne peux pas dire que mon âme est séparée de mon corps. Mon corps, c'est moi-même. Et tant que je vis sur cette vie d'ici-bas, je sens bien mon corps comme étant un instrument conjoint qui m'aide à mettre en œuvre tout ce que la partie désirante de mon âme me demande d'opérer. Et donc, je désire travailler, je désire vivre ma vie pour les familles engendrées, transmettre la vie, etc. Il y a tout ce désir qui est marqué dans l'âme et que le corps réalise. Donc, l'instrument, c'est quelque chose de très grand, finalement. Et l'instrument conjoint, surtout, a une dimension plus élevée. Donc, il ne faut pas prendre le mot d'une manière, je dirais, qui soit instrumentaliste, un petit peu comme on regarderait quelque chose, on le prend puis on le jette. Une société de consommation utilise beaucoup de choses qu'elle finit par jeter. Nous, c'est des instruments conjoints pour la pérennité, pour la gloire. Et nos corps sont promis à la gloire, ainsi que le dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 21, quand il dit qu'il transformera nos corps de misère dans son corps de gloire.
Ah oui,
l'âme passable. Et on voit que les instruments, donc, c'est quelque chose de très très beau.
Et très beau. Et puis, ce qui peut nous aider à comprendre, c'est parce que l'Église, elle a sa personnalité, donc réduire l'Église à un instrument inerte, ça n'aurait pas de sens. Mais on se souvient que les évangélistes, par exemple, sont utilisés comme instruments, tout en gardant leur capacité intellectuelle et de volonté, restent des instruments humains choisis par Dieu, qui n'enlèvent rien à leur personne. Ils ne sont pas réduits à des êtres de chair inerte.
Oui, et c'est ça qui nous fait être très très différents, par exemple, de ce qui est enseigné pour le Coran, où on a l'impression que le prophète de l'islam ne fait que répéter mécaniquement ce qu'il reçoit, alors que chez nous, c'est vraiment la parole de Dieu est toujours humano-divine, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'a pensé le prophète qui a écrit, ce que l'évangéliste a écrit, c'est vraiment lui-même, mais sous l'effet d'une inspiration divine qui fait qu'il fait ce que Dieu veut faire. C'est ça qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est cette grande dignité de la personne humaine, et ce qui faisait dire à Saint Léon le Grand, un soir de Noël, « Reconnais aux chrétiens ta dignité ».
Oui.
Et ça, c'est important de le répéter souvent, parce qu'on risque, dans un dialogue interreligieux un peu naïf, de perdre le sens de notre grande dignité, qui est nettement supérieure à toutes les autres manifestations religieuses du monde. L'unique vraie religion, dit le Concile Vatican II, subsiste dans l'Église catholique.
Oui. Donc l'Église est choisie comme instrument, mais tout en se souvenant qu'elle est l'épouse, elle est celle qui va collaborer, qui va travailler avec le Christ, avec toute sa personnalité.
Toute sa personnalité, et en même temps tu peux ajouter qu'elle est corps, c'est-à-dire le corps, on voit mieux directement que c'est un instrument, puisqu'on dit que l'Église est corps, du Christ, corps mystique du Christ, corps spirituel certainement, c'est pas un corps comme nous les connaissons ici-bas, mais cet ensemble fait que liés les uns aux autres par toutes sortes de ligaments et de nerfs, nous sommes liés les uns aux autres au Christ qui nous donne la vie.
Il est question d'utiliser l'Église comme instrument pour l'unité du genre humain. On a l'impression que quand Dieu choisit le peuple d'Israël ou tel chrétien, il n'a pas en vue l'unité du genre humain. Est-ce que cette unité, elle est voulue par Dieu? Il veut que tout le genre humain forme une unité?
Oui, c'est un grand aspect d'où le mot mystère, souvent, c'est que Dieu prend toujours acte du particulier vers l'universel. Il choisit un en vue de tous. Et ça, c'est une caractéristique de la vérité, de l'authenticité de la révélation. L'un vers le tout. Et donc, nous sommes à la fois particuliers, nous sommes une histoire particulière, mais vers l'universel.
Merci, frère Edouard.
À bientôt.
À très bientôt.
Vous souhaitez joindre Radio Présence, c'est très simple. Par mail, contact@radioprésence.com. Par courrier, 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse. Par téléphone au 05 62 48 63 00. Et enfin, vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter.